Je lis avec vous quelques versets, d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10. Nous lisons au verset 12. « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu ? Simplement, que tu le révères en marchant dans toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. » Quelques brèves paroles encore dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6. Texte bien connu. On t'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Une lecture maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre, la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Éphésiens, je lis un paragraphe un peu plus long, au chapitre 4, et à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne marchez plus comme marchent les païens, que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres, et ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler, si c'est lui qui vous a été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Vous voilà donc débarrassés de mensonges. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère? Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Ne donnez aucune prise au diable. Celui qui volait, qu'il cesse de voler. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, mais s'il est besoin, quelques paroles bonnes, capables d'édifier et d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qui l'aiment. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime comme un parfum d'agréable odeur. Et un peu plus loin, au verset 15, « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. » Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'Esprit. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps, à tout sujet, rendez grâces à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher, c'est le thème de ce que je voulais partager avec vous ce matin. Le caractère basique de la marche est une évidence. Comme parler, marcher est un des deux premiers apprentissages de l'enfant. Apprendre à parler, apprendre à marcher. Avant, il y a longtemps, la marche avait une signification. Le moyen naturel et immédiat pour aller à un endroit prévu, principalement pour y chercher ce dont on avait besoin, nourriture, abri, activité, relations personnelles, etc. Aujourd'hui, comme on marche moins que dans ces temps lointains, on distingue deux objectifs principaux au fait de marcher. Marcher pour aller quelque part, et marcher pour bouger, pour pratiquer un exercice naturel nécessaire. Surtout que, avec les possibilités de notre temps, pour les moyens de locomotion et autre chose, souvent, au lieu d'aller chercher les choses dont on a besoin, on peut se les faire livrer, à méditer. Parmi les services que la publicité vous propose, vous avez certainement vu celle-ci. En avez-vous marre, de nettoyer, de laver, de ranger, de faire la cuisine? Vous avez dû voir ça. On vous propose de le faire à votre place. On marche pour vous. On marche pour nous. Devrions-nous réapprendre à marcher? C'est mon propos de ce matin. Marcher est tellement essentiel qu'il est devenu synonyme de vivre. Et dans plusieurs des passages que j'ai lus et dans bien d'autres, dans un certain nombre de traductions plus récentes, il y a toujours littéralement marché, c'est très répandu dans le texte, mais ça a été souvent traduit par vivre, tout simplement. Vivre. Dans l'écriture, évidemment, la réalité et l'image de la marche sont très fréquemment utilisées. Je voudrais, à quelques enjambées, relever quelques-uns des aspects de la marche. Et le premier, bien entendu, c'est l'expression « marcher avec Dieu ». Marcher avec Dieu. C'est une expression tellement ramassée. Elle sert à désigner toute une vie dans ses pensées, dans ses comportements, dans ses actions, dans sa durée. Et c'est ainsi, par exemple, que dès le début du livre de la Genèse, dans cette énumération des ancêtres, nous voyons apparaître Énoch. Et la seule chose qu'on sait, qu'on connaît de lui, c'est justement cette expression « Énoch marcha avec Dieu ». Et après, il disparut parce que Dieu le prit. Énoch marcha avec Dieu. C'est vrai qu'il est mentionné aussi dans la liste de ceux qui ont marché par la foi. Et là, le texte est un peu plus explicite, il dit, il avait reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Ce seul mot le définit dans la totalité de son être et de sa vie. C'est dit aussi à propos de Noé. Et bien sûr, pour Noé, nous en savons un peu plus. Noé marcha avec Dieu. Expression simple et globale pour définir une vie. Nous avons lu dans le prophète Michée, qu'est-ce que Dieu demande de toi ? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec Dieu ou marcher sans Dieu. Une grande différence entre deux vies. Marcher avec Dieu ou marcher sans Dieu. Je voudrais maintenant relever quelques textes qui parlent du chemin qui est celui que Dieu a prescrit. Je vais lire quelques versets dans le livre du Deutéronome au chapitre 8. À partir du verset 1er. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir les véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Je répète juste cette expression importante. Il a agi ainsi pour découvrir et pour te faire découvrir en même temps, tes véritables dispositions intérieures. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, te fait ton éducation comme un père éduque ses enfants. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit, et ainsi, respecte-le. Marche sur les chemins que Dieu te prescrit. Cette expression revient très souvent dans d'autres passages. En y réfléchissant, avons-nous lu, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi respecte-le. Voilà, d'une façon maintenant un peu plus explicite et un peu plus détaillée, ce que c'est que de marcher avec Dieu, vivre avec le Seigneur. Et nous avons bien sûr en arrière-plan, puisqu'il s'agit du livre de Deutéronome à la fin des 40 ans dans le désert, nous avons toutes les étapes que le peuple d'Israël a parcouru, étapes de cette marche, qui sont des étapes de vie, qui sont des étapes où se révèle à la fois l'action de Dieu en faveur de son peuple et la façon dont le peuple réagit et se comporte avec Dieu pour l'accompagner. En y réfléchissant, tu comprendras. La façon de marcher pour Israël révèle son degré de foi, ou parfois son manque de foi, son état d'esprit, les sentiments de son cœur, que Dieu voulait connaître, mais Dieu les connaissait. Mais en les amenant à les exprimer, Dieu voulait que le peuple lui-même en prenne connaissance. Dieu a voulu faire connaître à son peuple quelles étaient ses véritables dispositions intérieures, ses véritables sentiments dans la marche avec Dieu. Nous trouvons à bien des reprises ces expressions dans le livre du Deutéronome. Nous l'avons aussi dans le livre de Josué, où il est dit à la fin du livre, « Aimez l'Éternel votre Dieu, suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous, obéissez à ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. » Nous voyons ici, avec une insistance bien marquée, qu'il s'agit d'un engagement total de ce peuple et de chacun de ceux qui le composent, dans le fait de suivre Dieu. Alors il y avait le fait de le suivre de façon très concrète, puisqu'il leur montrait le chemin, mais de le suivre surtout intérieurement, de le suivre surtout par la pensée, par le cœur, par les sentiments, en étant attaché à l'Éternel, en étant près de lui, en vivant avec lui. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous. Obéissez à ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. Nous avons ici aussi une référence explicite à ce grand commandement qui résume toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez la répétition, l'insistance sur cet attachement à Dieu. Et nous pourrions évidemment citer beaucoup de textes. J'en cite encore un dans l'Ancien Testament, dans le prophète Jérémie, où nous lisons « Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, voyez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis suivez-le donc, et vous trouverez le repos de vous-même. » Voilà le chemin prescrit par Dieu, prescrit et pratiqué déjà par le peuple. Maintenant, nous passons au Nouveau Testament. Le chemin manifesté par Jésus et par les apôtres. Et là encore, je lis quelques versets dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Évangile selon Jean, au chapitre 14. Nous l'avons lu il n'y a pas longtemps. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et vous connaissez la suite de ce texte. Le chemin, c'est Jésus. Jésus dans son enseignement, dans ses actes, dans ses paroles, dans sa relation avec les siens. Jésus dit encore d'autres paroles pour parler de cette manière de le suivre. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tandis que vous avez la lumière pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Jésus, par tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il disait, éclairait ce qui était autour de lui. Et le premier pas de ce fait de le suivre, c'est de se laisser éclairer intérieurement par l'enseignement de Jésus. Je suis la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui écoute mon enseignement, mes explications, celui-là, éclairé intérieurement par ma parole, ne marchera pas dans les ténèbres. Nous lisons dans la lettre aux Éphésiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et là, nous sommes un pas plus loin dans ce fait de marcher avec Jésus et de suivre Jésus. Ce n'est pas seulement écouter et être éclairé par sa parole. C'est carrément être pénétré par cette lumière et être des enfants de lumière. La lumière est en nous, par Jésus-Christ, par son Esprit. Après avoir enseigné la parole, Jésus, en partant, a donné son Esprit, cet autre lui-même, qui vient à l'intérieur de chaque croyant, pour rappeler les paroles de Jésus, pour éclairer le croyant. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous avons là des critères assez précis pour nous permettre de savoir si nous marchons effectivement dans la lumière. Il y a d'autres expressions qui définissent cette marche avec Jésus. Dans cette même lettre aux Éphésiens, nous lisons « Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. » Marchez dans l'amour. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermi par la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, et débordant de reconnaissance. » Voilà d'autres expressions qui parlent de cette force qui nous relie à Jésus lui-même, et de ce fait d'être jour après jour dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, consolidé, affermi, enraciné et fondé dans la foi. Marcher en Christ, marcher comme il a marché. Et je termine cette partie du parcours en disant dans la lettre aux Romains, « Nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, où nous marchions dans une vie nouvelle. » Et je termine par la troisième partie de ce que je voulais exposer au milieu de vous ce matin, en parlant des deux chemins opposés. Là, nous avons vu le fondement, le chemin que Dieu a instauré. Nous avons vu la pratique que Jésus est venu révéler et qu'il a lui-même pratiqué et vécu. Et ensuite, il faut marcher. Et dans cette marche, deux chemins sont souvent opposés. Par exemple, dans la lettre aux Galates, nous avons une expression simple. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui est entré dans le chemin de la foi, qui a reçu le Saint-Esprit, peut marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon les inspirations du Saint-Esprit. Et ce faisant, il s'éloignera, il s'écartera de ce qui reste en nous, des désirs de notre nature humaine d'origine. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 14, il y a toute une pensée qui est développée sur les différences qui peuvent intervenir entre les chrétiens, dans l'Église, entre ceux, par exemple, qui considèrent qu'ils peuvent manger des viandes sacrifiées aux idoles et ceux qui ne pensent pas qu'il faille manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'était un exemple de l'époque, mais on peut le développer sur bien d'autres sujets dans toutes les époques de l'histoire, y compris la nôtre aujourd'hui. Et à un moment donné, l'apôtre Paul dit « Tu peux revendiquer ta liberté comme étant une valeur fondamentale. Mais si parce que toi tu dis « J'ai la liberté de manger une viande sacrifiée aux idoles » et qu'il se trouve à côté de toi un frère qui, lui, parce que il y a moins longtemps qu'il marche avec le Seigneur, parce qu'il vient d'un milieu où les choses étaient différentes. Pour lui, ce fait-là, que tu manges d'une viande sacrifiée aux idoles, va être un scandale, un problème profond. Et c'est à ce propos que l'apôtre dit, « Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. » Bien sûr, c'est à cette expression que je voulais arriver. « Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. » Je pense qu'il ne doit pas être trop difficile pour chacun de nous d'appliquer ce précepte dans bien des cas et dans bien des circonstances. Lorsqu'il arrive que nous ayons des divergences, ça arrive bien sûr, c'est normal. Mais nous devons mesurer l'importance du propos et de la divergence qui fait que l'un pense ceci et l'autre pense cela, l'un préfère ceci, l'autre préfère cela. Est-ce que c'est très important, moins important ou pas important? Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Le plus important, c'est de marcher selon l'amour. Connaissons tous ce qui se passait chez les Corinthiens. L'apôtre Paul les reprend parce qu'il y en a un qui dit « Moi je suis de Paul, l'autre moi je suis d'Apollos, l'autre moi je suis de Céphas et l'autre moi de Christ. » Et alors il leur dit « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, c'est dans une église que ça se passe, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Remarquons ici simplement qu'on peut être chrétien et sur certains sujets, à certains moments et dans certaines circonstances, marcher selon l'homme, c'est-à-dire selon notre nature d'origine, notre nature humaine. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme, ou ne vous conduisez-vous pas d'une façon toute humaine, traduit dans un autre. Voilà, j'insiste pas davantage, mais je pense que nous avons tous compris que nous avons à considérer notre façon de nous comporter. Et positivement, au point où nous sommes arrivés, dit l'apôtre dans la lettre aux Philippiens, marchons d'un même pas, ou avançons ensemble, ou marchons dans la même direction. Le texte permet ces traductions, il est un peu difficile dans l'original. Et il s'oppose évidemment au texte précédent, de ceux qui marchent d'une façon toute humaine. Au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble dans la même direction. Dans la lettre aux Éphésiens encore, voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous l'avons lu ce texte. Et je termine par cette citation. Au reste, frères, ça c'est dans les Thessaloniciens, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au Seigneur, marcher avec Jésus, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous faites bien ? Continuez. Marchez à cet égard de progrès en progrès. Je me le dis à moi d'abord, bien sûr. Amen. Nous allons maintenant